Les arènes de l'écologie sur Aligre FM.
Tous les mercredis de 19h à 20h.
Le combat du siècle.
Planète contre humanité.
L'enjeu est énorme, on sait déjà que la planète finira par gagner.
Mais combien de temps tiendra encore l'humanité ?
Eh bien, bonjour à tous, chères auditrices et chers auditeurs des arènes de l'écologie. Alors, écoutez, on va essayer de tenir une semaine de plus avec cette nouvelle canicule. Alors, je ne sais plus, il y a un débat sur le pic chaud ou le canicule. Bon, en tout cas, on trouve toujours des problèmes sémantiques, mais il y a un fait qui est évident, c'est que ça se réchauffe. Alors, on en parlera tout à l'heure sur l'agenda de Madame la Ministre, parce que pour une fois, il y a quelque chose à dire. Mais avant ça, je vais vous annoncer le sujet du jour. Alors, sujet du jour, c'est un petit peu dans la suite de notre cycle d'émissions sur rencontres entre scientifiques et artistes. Là, j'ai trouvé un lieu qui, imaginez-vous, et c'est pratiquement leur fonction que de croiser les regards de la culture et du monde de la science et notamment de l'écologie. Alors ça se tient à ce lieu, c'est le Cube Garches, qui est à Garches-Lègonesse, donc dans le nord du Grand Paris, dans le 95, si je ne m'abuse, donc j'ai bien vu le code postal, oui c'est bien le 95, mais bon, vous savez que tout ça s'entremêle un petit peu dans ce coin, il y a le 95, le 75 est pas loin, et le 92 pas non plus très, très loin. Bon, peu importe, voilà, on va pouvoir en parler parce que effectivement c'est une démarche assez originale. Et puis, que voulez-vous, Paris, la France est ainsi faite, c'est un magnifique lieu dont l'aura n'a pas encore tellement réussi à traverser le périph, mais ça va s'arranger puisque c'était la première manifestation qu'ils organisaient en invitant des journalistes. Alors voilà, donc c'est pour ça que je me suis retrouvé au Cube et où on a rencontré Audrey. Alors Audrey comment déjà ? Je l'ai noté, mais je...
Non, il n'y a pas de problème, c'est Audrey Gouillemenou.
D'accord, qui est la directrice de communication et puis on attend Gabrielle, qui, elle, est chercheuse, mais qui a été prise aussi un peu dans les embouteillages, parce qu'on vient tous en transport en commun, mais dans les aléas du RER et puis des chemins de fer. Parce qu'imaginez-vous que, alors c'est peut-être pas déjà ça, mais quand il fait chaud, ça se dilate et ça a l'air de poser des problèmes. Alors il paraît que même à 50 degrés, en 2050, il faudrait peut-être carrément, dont les transports en commun fonctionneraient peut-être plus. Mais bon, on en reparlera tout à l'heure. Alors par contre, ce soir, parce que Théo, lui, est toujours pris en otage par les marmottes dans le parc des Écrins, bon, on attend sa libération, on attend même un signe de vie. Ah si, je l'ai eu son signe de vie, mais bon, en tout cas, il n'était pas libre pour faire sa chronique. Donc, c'est Manon qui, au pied levé, presque, le remplace. Et alors, que nous as-tu préparé, Manon, pour cette chronique inaugurale, puisque c'est ta première, quand même.
Eh oui, bonjour à toutes et à tous. Moi, j'ai préparé une petite chronique pour introduire un peu les invités donc sur les tiers-lieux et leur impact sur le lien social et la transition écologique. C'est dans un contexte en France qui est marqué par l'isolement social, les fractures territoriales et surtout l'urgence écologique. Les tiers-lieux donc s'imposent peu à peu comme des acteurs incontournables de la transformation des territoires. Et qu'est-ce qu'un tiers-lieu, me demanderez-vous ? Eh bien, ce sont des espaces hybrides où on peut aussi bien télétravailler, participer à des ateliers de réparation, cultiver des jardins partagés, assister à des événements culturels. Et tenez-vous bien, en France, plus de 3500 tiers-lieux ont été recensés, dont un tiers en milieu rural. Donc longtemps perçus comme de simples lieux de coworking ou d'innovation sociale, aujourd'hui ils ont en fait un impact bien plus large. Et c'est ce que révèle une étude récente qui a été menée par l'ANCT, l'ADME et le Campus de la Transition, qui montre que ces espaces en fait renforcent considérablement le lien social, avec 80% des usagers qui déclarent y avoir créé des relations avec des personnes de milieux différents, et 72% qui affirment avoir développé des comportements de solidarité envers des inconnus grâce à leur fréquentation du lieu. Et donc cette capacité à créer des liens constitue maintenant un indicateur d'évaluation à part entière, qui est l'indicateur de capacité relationnelle, dont l'objectif est de mesurer ce qui manque souvent dans les stats économiques, la confiance, l'entraide, l'engagement citoyen, ou encore le sentiment d'appartenance à un territoire. Mais l'impact des tiers-lieux ne s'arrête pas là, parce que ces espaces favorisent aussi des pratiques plus respectueuses de l'environnement, avec des systèmes de mutualisation des équipements, de réparation d'objets, de circuits courts, de mobilité partagée ou de sensibilisation à la biodiversité. Un usager sur deux estime avoir réduit son empreinte carbone grâce aux habitudes développées dans un tiers-lieu. Pour plusieurs chercheurs, ces lieux constituent même des fabriques de société, en favorisant la coopération, la gestion collective, les initiatives citoyennes. Ils expérimentent en fait de nouvelles formes de solidarité et participent à la construction de biens communs à l'échelle locale. Donc, les tiers-lieux apparaissent donc bien plus comme des espaces de service. Ce sont vraiment des lieux où on réinvente les manières de travailler, de vivre ensemble et aussi d'habiter les territoires. Et à l'heure où la transition écologique exige autant de changements techniques que de transformations sociales, ils pourraient bien constituer l'un des maillons essentiels de la résilience de demain.
Eh bien, merci Manon. Alors, l'ANCT, c'est quoi déjà ? Alors, je sais que tu fais un stage, donc tu devrais connaître cet acronyme.
Et oui, c'est l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires.
Alors, ça ressemble plus ou moins à la DATAR, tu me disais l'autre fois. Oui. Parce que bon, la DATAR, c'est le terme pour les vieux, mais bon...
Oui, en fait, c'est l'évolution. À la base, c'était la DATAR, puis ensuite, ça a été le CGET, donc le Conseil Général de l'Environnement et des Territoires. Et ensuite, ça est devenu l'ANCT à partir de 2019, je crois.
D'accord, 2019. Bon, écoutons, je vais réviser mes acronymes et puis mon organigramme de l'État. Donc, effectivement... Alors la question de... Disons, c'est vrai que c'est tiers-lieu. Alors, le cube n'est pas un tiers-lieu, hein, André. Hein. Mais par contre, nous, on est ici à Radio Aligre et dans le Césure qui est un tiers-lieu. Un tiers-lieu, il y en a d'autres à Paris. Alors c'est vrai qu'on avait fait une émission il y a quelque temps sur un peu cette thématique-là. Mais en tout cas, par contre, un point commun effectivement avec le cube, c'est que c'est un peu des laboratoires pour réinventer des manières de s'adapter, de vivre, et puis de créer des nouvelles convivialités, parce que tout change, mais effectivement, et quelquefois, le social, dont les liens sociaux n'ont pas toujours suivi l'évolution technique, et puis en tout cas, on s'aperçoit quand même que dans les médias, on parle beaucoup plus d'évolution technique, les solutionnismes, je ne sais pas pourquoi, mais ça a plus la cote que les façons de vivre, de s'adapter, etc. Alors, je vous disais que j'avais une surprise à vous annoncer, donc pour l'agenda de Madame la Ministre, les nouvelles de Roquelaure, notre ministère de l'écologie, de la transition écologique. Alors, elle est sortie de sa grotte. Imaginez-vous, Madame Barbu a enfin parlé devant tout le monde. Alors c'est vrai que je ne sais pas si elle a été piquée au vif par un papier de Libé, du Monde, qui s'interrogeait pourquoi elle était si discrète et si invisibilisée. Tout le monde s'inquiétait de savoir si l'écologie était passée à la trappe. Bon, en tout cas, je ne sais pas comment, mais peut-être que c'est un effet météorologique. Le ministère s'est aperçu qu'il faisait chaud. Il a fait... À l'instant, ça vient de se terminer, ça s'est terminé à 17h, à 18h même, j'étais encore dans le RER, il nous a fait un communiqué sur l'adaptation climatique. Parce que, imaginez-vous, alors je ne vais pas dire que c'est de la mobilisation générale, mais ça commence à y ressembler. Donc c'est vrai qu'on a peut-être attendu d'avoir des canicules avant l'été pour qu'on sonne le tocsin sur le climat. Donc on en fera probablement une émission parce que effectivement la question d'adaptation climatique c'est essentiel. Et là on a beaucoup parlé de MaPrimeRénov, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Il y a un débat qui se lance sur faut-il ou pas comment utiliser la clim. Et puis aussi la question des écoles, la question de le confort à la chaleur dans les différents espaces, que ce soit dans l'habitat, mais aussi dans les bureaux, dans les bâtiments où les gens ne peuvent pas aller télétravailler, comme d'autres. Donc voilà, donc effectivement, ça va être un grand sujet, et c'est vrai que ça va occuper toute la semaine de Madame la Ministre, parce qu'elle a dû préparer sa conf, j'imagine, mais ce sera suivi par deux déplacements, et là, on sait à peu près pourquoi elle va se déplacer, parce que d'habitude, c'était un peu flou, mais bon, là, on nous a prévenu. Donc elle irait dans les Pyrénées-Orientales pour voir comment on peut adapter Donc ça a été une étude de cas sur le recyclage des eaux usées pour un usage agricole. Donc c'est vrai que dans le Pyrénées-Orientales, ça tombe à pic. Et puis elle se déplace ailleurs vendredi, mais là j'ai oublié de noter où elle allait et qu'est-ce qu'elle ferait. Pyrénées-Orientales, c'est samedi, excusez-moi à tous. Mais bon, on en reparlera. Eh bien, on va commencer à parler avec Audrey. Donc, le cube, j'ai annoncé, c'est le cube de Garches, c'est la culture puissance 3.
Oui, effectivement, pour décrire ce qu'est le cube Garches, donc comme vous l'avez dit, le cube Garches se trouve évidemment à Garches-lès-Gonesse, donc c'est un établissement culturel qui fait 10 000 m², donc il faut imaginer 10 000 m² dédiés aux cultures numériques, donc avec différents équipements, donc 6 grands équipements, une salle de spectacle qui peut accueillir 1000 personnes, une autre qui peut accueillir jusqu'à 250 personnes, une salle de cinéma, une médiathèque, un studio d'enregistrement, un Fab Lab. C'est vraiment ce qui rend le cube Garches unique en son genre. Alors, c'est pas tant en fait le fait qu'il y ait 10 000 m² et 6 équipements, mais c'est qu'en fait ils soient tous interconnectés et surtout gérés par une seule et même équipe autour d'un projet culturel.
Oui, donc c'est un multiplex avec multifonction, on y fait plein de choses. Voilà. Et alors j'étais impressionné par le côté ruche que exactement. Ça peut avoir. Et puis ce côté multifonctionnel connecté avec aussi les habitants, les écoles. Vous faites participer, bon, ceci étant, dans la culture, on fait toujours participer les écoles. Oui. Mais ça suffirait pas à le distinguer d'autres équipes, non?
Alors, sur cette partie-là, c'est vrai, quand on pense à des musées ou à des centres d'art, la logique est de se dire qu'à un moment donné, ils vont accueillir un public scolaire. C'est vraiment... on a cocher la case, sauf que le cube Garches en fait a ouvert il y a 3 ans sur un propos particulier qui s'intéressait à l'art émergent et au numérique. Donc la démarche ne pouvait pas être on va ouvrir un lieu qui va parler d'art numérique et puis ensuite on verra bien qui viendra. C'était pas du tout la démarche, d'autant que le cube n'est pas né à Garches, il est né à Issy-les-Moulineaux il y a 25 ans, donc enfin...
Dans un cadre associatif.
Voilà, exactement. Enfin, il est né il y a 25 ans et il y a eu une étape à Issy-les-Moulineaux. Donc il y a quand même une grosse expertise sur cette compréhension de comment mettre en contact ces questions d'émergence et d'art numérique et de culture numérique avec le public. Donc le premier travail du cube Garches, ça a été de connecter avec une audience locale, avec les voisins. Et je pense que c'est un vrai sujet maintenant.
Quoi.
Exactement. On fait venir ses voisins d'abord. Et le travail, il est passé par la jeunesse, parce qu'en fait, le territoire de Garches, c'est une des villes les plus jeunes de France. Donc, et puis aussi parce qu'en termes de sensibilisation, travailler avec la jeunesse, en fait, c'est aussi toucher les parents aussi, en vrai. Donc, quand vous travaillez avec des écoles, les enfants, ils racontent ce qu'ils ont fait à l'adulte référent. Donc, vous touchez aussi cette audience-là. Et au bout de 3 ans, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors, les chiffres, ça ne dit pas tout de la qualité, mais là, c'est assez précis, puisque depuis l'ouverture, c'est 10 000 scolaires qui sont venus au cube. Et 10 000 scolaires sur une population de 42 000 habitants, 43 000 habitants, c'est 100% des scolaires. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on dépasse un peu, j'allais dire, même les chiffres d'autres établissements, puisque là, les scolaires sont venus.
Voilà, les scolaires, on est d'accord, c'est jusqu'à la 6e, jusqu'au collège.
Alors, ça, on peut englober aussi les lycées.
Les lycées.
Oui, parce qu'il y a des propositions, type par exemple ciné-club, qui sont proposées pour les lycéens. Donc il y a un travail qui va jusque-là. On s'arrête.
Je dirais que cette propension, cette caractéristique de population jeune, Il faudrait faire une carte, mais c'est quand même... on a longtemps parlé de la ceinture rouge, mais là, c'est un peu la ceinture jaune autour des, de Paris. Mmh. Et dans d'autres communes d'Île-de-France, un peu en périphérie, au bout du RER, c'est là où on trouve la plus grande proportion de jeunes. Et c'est vrai que c'est déterminant dans la vie municipale. Donc effectivement, le CUBE, c'est une... c'est un fonctionnement qui repose... Alors, même si c'est une économie mixte, si j'ai bien comprendre.
Donc voilà. C'est un établissement... Ah là là, les acronymes. Je ne vais pas dire ça vite. Bon, c'est un établissement public, en gros.
Voilà,
mais... Et c'est une coopération entre différents opérateurs, notamment la DRAC, le ministère de la Culture, la région et la ville de Garges.
Et puis l'agglomération.
Exactement, Droissy, Pays de France.
Voilà.
Mais c'est un établissement public.
Ok, donc effectivement, c'est de ce point de vue-là un outil comme on peut penser qu'il en existe plein d'autres, mais il a quand même quelques originalités, et effectivement, c'est très bien de s'apercevoir que l'originalité, l'innovation, ça peut exister au-delà du périph', et moi je trouve ça génial en tant que bon provincial. Alors... Le sujet... on va peut-être faire une petite pause musicale pour reprendre... mais non, on vient de l'avoir, la pause musicale.
Oui, il y a
très... Ouh là là là, je suis fatigué, moi. Que voulez-vous, c'est les degrés. Oui, puis on attend toujours Gabriel. Donc c'est peut-être ça aussi qui me stresse. Mais donc effectivement, l'axe du... L'axe, c'est bien les arts numériques. Alors, qu'est-ce que c'est que les arts numériques? Parce que aujourd'hui, arts numériques, on pense à l'IA, on pense à un tas de choses comme ça, mais il y a 30 ans, ça n'existait pas.
Alors,
pas comme ça, quoi.
Il y a 30 ans, ça existait. Alors, c'est très drôle. Justement, précisément, le CUBE, l'association a 25 ans. Et il y a 30 ans, et dans les années 90, je le disais ça il n'y a même pas très longtemps, il y a eu une première exposition au Centre Pompidou sur les arts numériques, suivie ensuite d'une exposition qui a suivi au Palais de Tokyo. Et en fait, la démarche de l'art numérique, évidemment, on peut se dire, est-ce que prendre un appareil photo, faire une photo, l'exposer, est-ce que ça fait de soi un artiste numérique. Alors c'est un vaste sujet, on va pas pomper l'heure d'émission, mais concrètement en fait non, c'est une approche qui va être déjà iconoclaste, qui va être une approche de réflexion par rapport à la technologie, qui peut être parfois technocritique et qui va englober finalement la question numérique dans le sujet de l'art lui-même. Mmh. Et en fait c'est identifiable parce que l'art numérique aujourd'hui, c'est une... Bon, moi, je ne suis pas spécialiste, mais on peut considérer, pour vulgariser, que c'est une niche de l'art contemporain aussi.
Oui.
Et que dans la démarche, il y a une démarche qui est beaucoup liée à l'émergence. Il y a des vrais questionnements par rapport à la notion de marché, parce qu'en fait, c'est pareil. Hein, on mélange des idées sur la culture parce qu'on y met des questions de marché de l'art, mais en fait, tout n'est pas lié à ça. Et à l'intérieur... Voilà, vous avez l'art numérique, mais qui navigue et qui pose des questions de manière un peu différente.
Alors, on confirme qu'on n'a pas fait la pause musicale. Donc, on est vraiment... Bon, c'est la chaleur, excusez-nous.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Des artistes, et un soir, j'ai pris le micro et j'ai commencé à chanter, à improviser. Et à partir de là, ça a été une vraie révélation pour moi de trouver des mots justes, et offrir à ma bouche aussi des mots qui sonnent. Et dans l'écriture... j'ai l'impression d'avoir découvert un pays où je me sens libre d'exister et de pouvoir dire des choses que je ne dis jamais dans la vraie vie. C'est Anaïs Rosso et je vais interpréter les colombes. J'ai tant aimé ces airs-là.
la première fois que je l'ai vu. Le cortège de l'enfer avait des airs de déjà vu. J'ai vu des pleureuses pleurer, des larmes de sanglots. Depuis ce jour, je ne m'arrête plus de compter mes ancêtres morts.
Eh bien, nous voici revenus dans les arènes de l'écologie sur Aligre FM. Et Armand va nous désannoncer ce magnifique morceau.
C'est Anaïs Rosso, c'est Les Colombes.
Parfait, merci. Alors moi, j'ai un correctif à faire. Manon vient de m'expliquer que ce n'était pas par les marmottes que Théo était pris, mais il était pourchassé par les patous dans les pâturages des écrins. Donc on lui souhaite... de survivre, hein. Et on attend toujours Gabrielle, mais qui devrait pas tarder. Aux dernières nouvelles, elle avait trouvé la porte de la fac de Sancier, donc du Césure, et maintenant elle va se bagarrer avec l'ascenseur pour essayer de monter au cinquième étage et rejoindre notre studio. Mais on était donc effectivement avec Audrey sur un peu les spécificités du cube, qui à la fois dans son fonctionnement, est innovateur, mais aussi dans les thématiques, puisque il est axé sur les arts numériques, et donc on était en train d'essayer de voir depuis quand ça existait. Et puis à un moment, vous allez me dire, mais qu'est-ce que vient faire les arts numériques dans les arènes de l'écologie quand même, parce que c'est vrai que la liaison est pas évidente, mais on y reviendra, alors, donc, continuez, Audrey, parce que vous êtes historienne de l'art. Okay. Hein, c'est comme ça que vous êtes arrivée au cube. Et donc sur les, l'art numérique, donc c'est à peu près tout. Où est-ce qu'il faut absolument faire de la vidéo? Qu'est-ce qui définit
Alors, en tout cas, la démarche au Cube, c'est clairement l'hybridation. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une école. Vous avez une école de musique et de danse, somme toute tout à fait lambda, j'allais dire, et qui se trouve au sein du Cube. Mais dans la démarche, on crée des croisements, on crée des passerelles. Vous allez avoir, par exemple, des compagnies qui font du théâtre immersif, qui vont venir travailler, parfois avec, pourquoi pas, l'école en question. Donc c'est vraiment de créer des passerelles et des chemins. On a une salle de cinéma qui, pareil, va programmer le film que vous avez pas loin dans votre quartier, et en même temps projeter aussi des cycles de Machinimae, donc qui est une niche en fait de création basée sur l'esthétique du jeu vidéo. Qui mixe un petit peu le cinéma et justement cette esthétique jeu vidéo. Donc vraiment la marque de fabrique, c'est l'hybridation. Les différents équipements sont pas posés les uns à côté des autres, ils sont interconnectés à la fois dans la démarche, parce que évidemment le numérique, mais on va en parler hein, le numérique qu'on voit aujourd'hui, c'est, on pense au numérique des GAFAM, mais au début de l'histoire du numérique, www, c'était gratuit hein, c'était pour tous, c'était plutôt chouette quand même. au tout démarrage, on avait accès à de l'info, et il y avait une pensée derrière qui était une pensée de partage, et aussi de le web 2, c'est ça hein, c'était, on prend la parole, on abaisse comme ça le côté hiérarchique de la manière de construire l'information. Donc le Cube, il est né un peu dans cette dynamique là et a gardé cet esprit.
Il a pratiquement l'âge de notre numérique et ouais, d'internet
tout
quoi.
À fait, et après bon bah ça a mal tourné. Voilà, maintenant on sait ce que voilà. Le numérique, et voilà, on est parti sur la phase un petit peu compliquée, avec notamment des projets de captation de nos ressources et écologie. Mais en tout cas, le Cube représente, en tout cas, voilà, émule cette idée-là de coopération, de réflexion et aussi d'empouvoirment. C'est-à-dire que par rapport au numérique, le numérique est dans nos vies et évidemment il participe au réchauffement climatique.
Oui, alors
comme toutes nos activités.
On a fait une émission sur l'impact et puis le développement des data centers aujourd'hui en France.
Et puis l'impact sur la faune, la flore, enfin ça se voit aux États-Unis notamment.
Ah, on nous annonce que Gabriel est arrivé. Bon, on va la faire rentrer tout de suite. On va pas vous cacher les choses. C'est pas comme ça. Alors, Manon, voilà, si tu peux ouvrir la porte blindée du studio. Voilà, vous êtes en direct avec l'arrivée de Gabriel.
Bonjour.
Qui va se glisser par derrière Audrey pour aller rejoindre son micro. Oui, c'est bien le micro, et c'est vrai que je pensais micro-ondes, je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est la chaleur qui me perturbe. Oui, alors on en était, Gabriel, on va vous expliquer, à dire ce qu'on faisait un peu au Cube, donc sur l'art contemporain numérique, et puis on voit que c'est pas si jeune que ça, mais c'est quand même aujourd'hui... est-ce qu'il faut faire du numérique pour intéresser les jeunes aujourd'hui ? Audrey.
Alors, c'est une question hyper intéressante, parce que en fait, on se rend compte que évidemment, il y a toute une génération aujourd'hui qui est née avec Internet, qui est née avec les réseaux sociaux, et aujourd'hui qui est née avec l'IA. Maintenant, la question, c'est quelle est la maîtrise de cet outil et quelle est la compréhension fondamentale du fonctionnement de ces outils et de comment tout ça et quel est l'écosystème. Et ça, c'est une question différente. Je pense qu'on peut considérer que des jeunes gens, souvent c'est cette vision-là, ils vont être très, très sharp sur la compréhension.
Sharp, alors ça veut dire quoi en
jeune hein. Très pointu, ils vont savoir tout de suite comment utiliser une tablette, etc. Sauf que ça, c'est pas l'entièreté du numérique. Le numérique, c'est du code, c'est des 0 et des 1, c'est un langage informatique. Et là, pourquoi ? Parce qu'on est né avec une tablette, on saurait utiliser code, etc.
Il n'y a pas de déterminisme non plus.
Et ça, et cette fracture numérique, alors on la pense souvent d'un point de vue générationnel, mais en fait c'est un peu plus vicieux. Je pense qu'aujourd'hui il va y avoir des nouvelles fractures, par exemple de savoir ce qui est de l'ordre d'une vraie image, d'une fausse image, d'être addict à TikTok. Bon, désolé, on va dire TikTok parce que quand même c'est facile.
Ouais,
C'est celui qui quand même. Hein. Oui. Donc être addict à TikTok, et donc je pense que la fracture numérique qui avait pu être une fracture d'usage, elle va changer de forme. Et je pense qu'il faut se méfier de ce biais de se dire jeune égale en totale maîtrise de l'outil. Jeune veut dire il est né avec. Oui. Jeune ne peut pas dire je comprends complètement.
Oui, donc puis peut-être qu'il s'est tapoté dessus, mais il n'en a pas forcément un usage ni réfléchi, ni critique. Quoi.
Et pareil bon. Sur les notions du.
Et puis c'est pareil, les jeunes, il y en a toutes sortes.
Il y en a toutes sortes, tout à fait.
Aligre FM 93.1.
Alors Gabriel, heureusement que vous êtes arrivé parce que c'est vrai que vous êtes notre maillon manquant de l'affaire, puisque si on s'intéresse au cube et du point de vue dans les arènes de l'écologie, c'est aussi parce que vous êtes là et que vous, votre fonction au cube, puisque vous êtes chercheuse, c'est de regarder l'impact du cube et puis si j'ai bien compris d'autres actions culturelles en général sur, quand on parle d'impact, c'est un petit peu l'impact sur l'empreinte carbone notamment, mais pas que ça. Si, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est l'impact ?
Oui, alors oui, j'aime bien faire la petite blague que je vous ai fait hier. Je suis tête chercheuse.
Ah oui.
Alors oui, je suis affiliée avec l'université Paris 8.
Et puis celle de Laval aussi.
Non, alors ça c'était pour mon doctorat j'ai terminé. Donc là, je suis en postdoc, donc premier métier de chercheuse.
D'accord.
Avec Paris 8, l'université de Nanterre, le laboratoire d'Isène, Paris 8, laboratoire Paragraphe, et avec Rartech qui jumelle tout ça, ce milieu académique avec des lieux culturels. Donc là, c'est le Cube Garges.
D'accord.
Et oui, donc là, mon projet dure d'un an. J'ai commencé toute fin janvier. Il va se poursuivre
donc
jusqu'à janvier
prochain.
Ne
vous inquiétez pas, on coche pas les
oui,
droits
oui.
au chômage.
Il y a pas de soucis. Voilà. Non, c'est pas ça. Mais c'est juste pour dire qu'on est vraiment à la moitié là, du projet. Et donc oui, on fait notamment une mesure d'empreinte carbone, également une mesure d'empreinte sociale. Hein, parce qu'il y a quand même des enjeux de territoire qui sont liés avec le Cube Garges, qui est implémenté au niveau, on va dire, d'administratif, d'unité administrative de plusieurs choses, donc Garges-Sarcelles. Il y a également Roissy, Pays de France, et plus largement le Val d'Oise. Donc voilà,
C'est le Val d'Oise urbain, c'est pas le Val d'Oise du Vexin, qui est un petit peu rural sur les bords.
Ça pourrait, hein, tout à fait, parce que utiliser les technologies, le numérique, c'est pas du tout antinomique avec les milieux urbains.
Alors qu'est-ce que c'est que l'impact?
Oui,
l'impact.
Alors, on peut nommer l'impact, on peut utiliser aussi un autre terme qui est les effets. Les effets produits, soit sur un environnement, donc là on parle peut-être sur les arbres, la gaz carbone, mais ça va être aussi le minerai qu'on va utiliser pour avoir tous des objets aussi avec des matériaux précieux, et puis il y a aussi des effets sur la société. Donc là vous parliez de jeunes, est-ce qu'on pour les rejoindre il faut absolument utiliser les nouvelles technologies? Ça dépend. Et puis, chaque lieu va avoir sa propre mission, ses propres objectifs, avec ses propres publics aussi. Donc, en ce moment, on est justement en train de faire une enquête sur les publics. Donc, ça fait 3 ans que le Cube Garges est installé dans ce nouveau lieu qui est vraiment très, très génial. J'invite tout le monde à venir le visiter. Vu qu'on fait un cap de 3 ans encore, on fait une étude sur les publics pour savoir, et les non-publics, pour savoir qu'est-ce qu'ils ont comme image du Cube, qu'est-ce qu'ils en espèrent.
Alors, c'est quoi? C'est de la sociologie? C'est quoi comme démarche?
C'est un mélange. Alors, je vous dirais, ça s'appelle des humanités numériques et ça rentre dans les sciences de l'infocom, SIC, S-I-C. Donc, c'est faire de la sociologie, faire des humanités, de la science humaine, mais avec l'aide d'outils numériques. Donc là, on va utiliser notamment des outils pour de la captation, en fait, de récolte de données. Aussi, on va s'aider d'outils pour pouvoir les analyser, les aider, mais notamment des IA. Donc là, moi, je regarde un petit peu en ce moment les IA open source et françaises. Il y en a quelques-unes. D'ailleurs,
oui,
le ministère en classifie. Donc voilà, je regarde un petit peu ça. Je vois un petit peu les échanges. Qu'est-ce qu'une IA va me donner comme résultat plutôt qu'une autre? Je vais regarder un petit peu ça.
Vous comparez les IA entre ChatGPT que tout le monde connaît et puis Mistral qu'on connaît un peu moins, mais qui est une IA française qu'on peut par chauvinisme recommander.
Oui,
je ne sais pas si elle est mieux, mais bon, en tout cas, elle est française. Et donc, elle ne nous a pas encore fait autant de malheur que les autres.
Donc voilà, c'est une pratique qui vient de la littérature. Donc, on utilisait justement des outils numériques pour pouvoir commencer à analyser, repérer vite, rapidement les mots-clés, les concepts, les choses comme ça, et nous aider un peu à aller plus loin. Donc, on utilise vraiment ça comme un outil qui nous permet un peu plus d'aller sauver peut-être un peu, d'aller un peu plus rapidement, de nous permettre de faire un premier, survol de notre terrain d'études. Et ensuite, de pouvoir aller un petit peu plus loin, de pouvoir dire « Ah, OK! » Et puis même, de venir tester soi-même avec l'IA. Donc, de lui demander de nous créer des contre-hypothèses, de nous contredire. Donc, en fait, ça vient vraiment comme quelque chose qui nous sert à avancer un peu plus loin dans notre réflexion.
Parce qu'effectivement, quand vous parlez de numérique, au final, c'est presque l'analyse de l'outil. C'est pas la fin en soi, c'est pas le résultat qui est forcément important.
Tout à fait.
Et d'ailleurs, pour préparer l'émission, parce que j'essaye de préparer l'émission quand même, je suis allé voir pour la pause musicale, parce que je sèche un peu sur le choix des musiques. Qu'est-ce qui existait comme musique faite par l'IA, ou du moins quel est le rapport entre l'IA et la musique? Et alors c'est vrai que bon, Mistral ne m'a pas donné autant d'infos que j'aurais voulu, mais il m'a parlé d'un dénommé Benoît Carré. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Alors, bon, je ne connaissais pas naturellement, parce que je ne connais pas grand-chose en musique, pour tout vous dire. Mais il y a une vidéo YouTube que je recommande, parce que là, démystifie un peu ce problème de l'IA. Alors bon, dans la vidéo, on tombe sur Stromae, d'autres chanteuses et chanteurs. Et en fait, il montre bien que Benoît Carré, qui est un compositeur, utilise l'IA comme il y a quelques décennies ou quelques années, on aurait utilisé un synthétiseur, quoi.
C'est vrai que ça, c'est l'un des grandes questions dans les ICC, donc l'industrie culturelle et créative. Se pose la question de l'IA, finalement, est-il strictement un danger, ou est-ce que ça peut être un outil? Alors, en fait, dans toutes les questions, j'ai envie de dire, notamment de technologie et d'innovation, c'est quoi la loi? En vrai, c'est quoi la loi? C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a une loi. Bah oui, mais c'est tout le problème, en fait. C'est pour ça que je dis ça. C'est qu'en vrai, aujourd'hui, vous avez envie de vous inspirer d'un artiste, vous avez le droit de citation, vous avez les copyrights. Enfin, vous avez toute une série de trucs législatifs qui vous permettent de vous guider de ce que vous pouvez faire. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Et c'est vrai que l'enjeu, comme souvent pour l'Europe notamment, c'est de faire son rôle de régulateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une IA qui pompe toute la littérature et qui ensuite crée des livres, je mets des guillemets, on ne voit pas, je fais créer des livres, en fait, il pille des livres parce que la ressource économique, elle ne va pas vers le créateur original. Donc, en fait, il y a un enjeu, désolé, mais aussi vraiment économique derrière ces questions d'IA. Et c'est là que c'est énervant, c'est-à-dire que pourquoi l'IA pirait en fait les catalogues musicaux et de littérature?
Parce que,
qui rémunère.
Oui, parce que grosso modo, ce que Audrey venait de nous dire, c'est que l'IA ne crée rien, ne fait qu'aller pomper. Alors, à droite à gauche.
Moi je parle des IA qu'on connaît dans nos téléphones, et on va dire l'IA qui est développée pour des usages.
Alors l'IA, vous dites, vous rapprochez un petit peu du micro.
Je disais l'IA parce que c'est pareil, en fait aujourd'hui l'IA que l'on consomme, nous, c'est un phénomène, la machine qui pense, qui existe encore une fois depuis très très longtemps, en fait. Les chercheurs du MIT faisaient des recherches avec des réponses, des tests, etc. Donc les versions qu'on a dans nos téléphones, c'est des versions industrialisées. Donc voilà, c'est ma réponse, c'est-à-dire que...
Oui, donc ça démystifie un petit peu ce terme d'IA. Et,
En tout cas, à mon avis, ça aussi, ça fait partie des notions de médiation. On parle d'intelligence artificielle. Mais enfin, le nom intelligence artificielle est un produit marketing. C'est pas de l'intelligence, ce sont des agents conversationnels. L'intelligence, c'est pas du super calcul. Derrière, vous avez, on le dit, des serveurs qui font du super calcul. Voilà. Donc, mais les super calculateurs, il y en a un au musée des arts et métiers, petit clin d'œil. C'est pas 2026. Calculer les trajectoires d'une fusée, c'est il y a bien longtemps. Donc vous voyez qu'en fait il y a quand même beaucoup de choses qui méritent d'être décryptées aussi dans cette technologie.
Alors de ce point de vue là, on peut pas résumer le cube à cette fonction là, mais ça décrypte notamment toutes ces nouvelles technologies de l'information. Alors, est-ce que c'est pas un impact ça justement important, Gabriel, de former la population à la compréhension, à l'usage de ces nouvelles technologies?
Mais complètement. Et d'ailleurs, je pourrais rajouter ça. J'ai fait une conférence vendredi dernier à la BNF avec le TNM Lab le TMN Lab. Et ils discutaient en fait des agents agentiques pour justement faire des requêtes sur les bases de données. Et donc, au lieu que nous on fasse des requêtes à l'écrit avec un langage qui s'appelle Sparkle, par exemple, ben, ce soit les machines qui le fassent et ça nous rendrait la tâche un petit peu plus, on va dire, moins fastidieuse, parce que souvent, il y a des bugs et tout, donc il y aurait quand même la chose de calculer pour. Et il parlait justement de ce que vous avez dit, la valeur des données. Qu'est-ce qui vient en valeur? Alors, avant, alors je ne saurais pas vous dire les temporalités, hein, mais on va dire, avant toutes les IA, tout ça, l'avantage, en fait, la valeur, c'était la donnée. C'était juste la chose si on la possédait. On l'avait sur notre base, si on l'avait, en fait, sur notre disque dur, par exemple. Ensuite, la valeur qui est la chose la plus valeureuse jusqu'à présent, avant les IA, c'était vraiment la donnée bien structurée. Donc, elle a un titre, elle a des descriptions qu'on appelle des métadonnées, donc des propriétés, donc par exemple bleu, carré, etc. Et ensuite, ben aujourd'hui, avec tous ces agents, ces IA agentiques qui font des requêtes, ben en fait, la valeur n'est plus au niveau de la donnée. Donc, tout ce que les GAFAM possèdent en ce moment, c'était si vous êtes gratuit, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit et donc on vend vos données. Donc, c'était ça la valeur. Et aujourd'hui, ben, la valeur, ça va plutôt être, et ce qui va être dans le futur, ça sera comment est-ce qu'on fait usage de cette donnée? Dans quel contexte on va venir l'utiliser? Et c'est ça aujourd'hui qu'on est plus en train de regarder au niveau des modèles économiques, au niveau de tout ce qui est informatique, numérique, voilà. Donc, ça va être vraiment de quelle manière on va être capable de la chercher, de quelle manière est-ce qu'on va l'exploiter. Et ça vient changer tout le paradigme. Donc, c'est à soi aussi de créer, on va dire, la narration, le contexte qu'on veut en faire, aussi ben, les usages et les effets. Donc, parce que si on la met en contexte, c'est que ça va avoir des effets, ça va avoir quelque chose. Est-ce que moi, je veux avoir une empreinte carbone moindre? Est-ce que moi, par contre, je veux aussi que les gens ben, viennent un peu plus chez moi? Est-ce que je veux qu'ils sortent de chez moi? Je ne veux pas forcément avoir plus de public, mais je veux que quand ils sortent de notre lieu, ils soient plus sensibilisés, qu'ils se souviennent de quelque chose et qu'ils puissent le transmettre, par exemple.
Oui, parce qu'effectivement, toute forme artistique ou comment dire, message n'a pas forcément... ça peut être le même narratif, le même texte, mais ça n'a pas forcément le même impact.
Oui,
c'est vrai que l'autre fois, j'étais surpris de voir l'impact que peuvent avoir les conférences sur des thématiques, quelquefois, qui sont... que moi, j'avais l'impression qu'on connaissait depuis un certain temps. Et c'est vrai qu'on peut les avoir sur le smartphone, voir quelqu'un parler... mais il n'y a pas la charge émotionnelle. Quand on est dans une salle avec quelqu'un, alors l'autre fois, j'écoutais la conférence d'Olivier Amand au festival d'environnement de Chatou, un des partenaires des arènes de l'écologie, donc leur fait un petit coucou. Et c'est vrai que c'était surprenant de voir alors pour le coup, le terme d'impact est effectivement extrêmement pertinent. Et donc, il y a une force à la fois émotionnelle et de conviction que n'a pas forcément un écran.
Ben, je pense que sur la partie...
Alors Audrey, vas-y, allez-y.
Non, mais c'est vrai que c'est un sujet que je trouve hyper important. En fait, j'ai travaillé aussi dans le secteur de l'OSS et des ONG.
Alors
en fait,
l'OSS
ESS, Économie sociale et solidaire.
Ouais.
Et en fait, c'est un élément qui est hyper important. C'est-à-dire que pour modifier les comportements... ça ne peut pas se faire doctement. Ce n'est pas parce que ce que vous dites est juste et vrai que en fait, vous avez raison, qu'en fait, que les gens vont faire ce que vous dites. Et ça se voit avec la question de la redirection écologique, des changements climatiques. Ce n'est pas suffisant. Donc, il y a une brique qui est importante. Alors, c'est une brique de plaidoyer d'abord, parce que tout ne se passe pas au niveau de l'individu. Il y a forcément une volonté politique, hein, ça ne faut jamais l'oublier. Et de deux, la sensibilisation. Si vous n'êtes pas en capacité d'expliquer en fait, et de faire de la médiation sur le pourquoi de ce changement et pourquoi il est nécessaire, vous passez à côté des audiences et des cibles. Et la manière, en fait, de sensibiliser, c'est par la culture. Ça s'est vu, vous allez vouloir changer des comportements, et ben par exemple, faire un support de séries télévision, enfin, dans certains pays, ça fonctionne extrêmement bien, de faire des podcasts, de faire des conférences, de faire des festivals, de faire des expositions, ça fonctionne. Donc, finalement...
Non, puis surtout, ouais. Comme dire, la pédagogie, c'est une répétition.
Exactement.
Et on ne peut pas répéter tout le temps, une seule voix qui répète, ça devient lassant. Alors Gabriel, vous voulez
dire?
Oui,
ben, si je peux rajouter c'était ça. On parlait justement, vous parliez d'impact et il y a un cas très concret. Par exemple, l'indicateur, moi, je regarde surtout les changements et les métamorphoses des métiers dans les industries créatives et culturelles avec les usages du numérique. Et donc, il y a, par exemple, ce gros enjeu. Alors, vous faites partie de la francophonie. Alors, moi, je suis québécoise aussi.
Oui, on avait, même si, on voilà, avait entendu. En France depuis et quand on temps. Parlait de Laval, c'était pas en Mayenne.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Voilà, voilà, et vous m'en avez parlé hier, donc voilà, j'ai travaillé moi aussi avant de venir à l'émission et j'ai préparé un truc. Ben, en fait, il y a un indicateur, par exemple, la découvrabilité des contenus culturels francophones sur Internet, et d'autant plus qu'en ce moment, il y a une IA qui traduit tous les contenus anglophones maintenant sur les navigateurs, donc on ne se rend pas compte qu'on consomme forcément des contenus anglophones, chose qu'on aurait eu il y a quelques années, tout de suite, on va dire si on ne parle pas forcément anglais ou on veut absolument aller chercher quelque chose de francophone, bon, on peut faire des recherches avancées, mais on aurait... l'idée, en tout cas, rapidement, d'un seul coup d'œil. Maintenant, ce n'est plus vraiment le cas, à part peut-être des petits artefacts qui restent le temps que la traduction se fasse parfois, on le remarque. Donc, il y a tout cet enjeu, en fait, qui est aussi un programme qui a débuté en 2020 et qui va se prolonger jusqu'en 2030, qui est entre le Québec et la France, sur justement un programme de faire en sorte que les contenus francophones, culturels et artistiques aient une meilleure visibilité sur Internet. Et donc, par contre, ça, dans les métiers, c'est concret. C'est, on veut qu'on ait une meilleure visibilité.
Alors, c'est clair
visibilité.
Qu'au Québec, vous avez beaucoup de choses à nous apprendre. Ouais. Vous êtes en première ligne, si on peut dire. mais alors, si on essaye quand même, de, pour terminer, bon, oui. Avant la pause musicale qu'on fera après l'émission, parce que le temps nous est compté, si on essayait de voir justement ce lien entre cette culture et l'écologie, puisque c'est le fonds de commerce tout de même des arènes de l'écologie, est-ce que... alors, quand moi j'y suis allé, quand on discutait avec Nils, je vous laisse prononcer son nom parce que je me suis pas entraîné suffisamment, et je suis très nul pour les noms de famille, un peu compliqué, mais oui, alors ce qui m'avait semblé, c'est que la culture servait à un petit peu d'outils de symbiose pour pouvoir faire travailler un tas de gens différents. Et en fait, c'est un petit peu la construction d'un nouvel écosystème urbain, de culture urbaine. Et quelque part, vous êtes un outil d'anticipation. On peut se projeter dans le futur. Et c'est vrai que c'était le thème de votre journée d'hier. Mais c'est vrai que c'est presque des laboratoires pour penser cet outil-là.
Oui. Alors du coup, le Cube Garge, on dit que c'est un pôle d'innovation culturelle. Alors quand on dit ça, souvent ça soulève plus d'interrogations qu'autre chose, mais je pense que c'est ça l'idée. C'est à la fois de se dire que par le territoire, voilà, par la jeunesse de son territoire, factuellement, on est dans le futur. C'est-à-dire que les manières de réfléchir, les choses qu'on va proposer au public, c'est des choses qui vont les outiller pour le monde d'après. Donc, et dans ce monde d'après, il y a forcément la question de l'écologie. Et alors évidemment, il y a un peu quelque chose d'antinomique de traiter du numérique et de se dire mais quel est le rapport avec l'écologie ? Bah, peut-être parce qu'on pose cette base-là qu'en fait, on ne détricotera pas ce qu'on a fait. On n'enlèvera pas Internet, on n'enlèvera pas les IA. Donc maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Factuellement, là, on le voit, le lieu, le Cube Garge, est ouvert de 14h à 19h. Peut-être dans quelques années... Pardon. Peut-être que dans quelques années, on va décaler les horaires d'ouverture pour que les gens puissent venir quand il fait trop chaud chez eux. Oui. Et donc, en fait, on sera en action par rapport à la question écologique. Et c'est pas parce que notre thématique, elle est... sur la technologie, j'ai même envie de dire, même avant le numérique, sur cette notion d'avancée technologique, qu'on n'est pas technocritique, qu'on n'a pas une démarche de réflexion, et encore une fois, outiller les gens pour qu'ils arrivent à penser, en fait, leur futur, et imaginer d'autres futurs aussi.
Parce que quelque part, oui, donc c'est effectivement penser de nouvelles réflexion, mais c'est aussi créer de nouvelles convivialités. Donc ça, c'est un peu ce que j'ai aperçu hier. Et ça, c'est essentiel. Donc effectivement, c'est quelque part, ce fonctionnement un peu symbiotique qui nous ramène à l'écologie, c'est-à-dire de réussir à ce que les multiples fonctions et les multiples territoires, et parce qu'il y a aussi des corps de métier, il y a un tas de choses dans ce cube. C'est inventer les fonctionnements de demain, quoi.
Et puis ça pose aussi la question de comment se vit l'écologie aussi. L'écologie, oui. Encore une fois, c'est une démarche qui est holistique. Enfin, ça recoupe plein de choses. On peut penser l'écologie sans penser la question sociale.
Et est-ce que, alors là, donc, il y a une magnifique exposition sur le numérique, mais est-ce
dopamine.
Que dopamine, voilà, qu'il faut se dépêcher pour aller la voir, puisqu'elle elle est bientôt à la fin de son cycle annuel, c'est ça ?
Fin juillet, oui.
Et est-ce que dans la programmation, vous avez prévu quelque chose sur, bah justement, qui ferait de la place à cette thématique écologique ? Bon, on va peut-être affûter l'angle, mais...
Alors, bah c'est intéressant, merci pour cette question. La saison prochaine, donc en septembre, on va une nouvelle thématique qui va être « D'autres voix, langage, code et traduction ». Et en fait, l'exposition éponyme... traiterait de la question de la communication du vivant et du non-vivant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle à des machines, et en fait, on n'a pas fini de comprendre comment parlent les plantes.
Le vivant,
comment,
entre
eux. Voilà, exactement. Donc, on aura tout l'espace pour...
D'accord. Eh bien, on va comment dire, procéder à... commencer notre processus d'atterrissage. On arrive à la fin de l'émission. Gabriel, je vais vous couper, vous frustrer.
Ben non, il n'y a pas de souci.
Mais bon, vous reviendrez.
Là, on parlait d'écologie de l'attention, notamment.
Voilà, c'est ça. Donc, oui, bah, alors il me reste à vous dire que la semaine prochaine, on aura une émission sur les rendez-vous de l'été. Partout en France, et puis dans 15 jours, il n'y aura pas d'arène de l'écologie, parce que ce sera une émission spéciale sur le monde associatif, et d'ailleurs ce sera sur Aligre FM, toute une semaine sur le monde associatif qui est à la fois énorme et puis méconnu. Donc il y a 1 million je ne sais plus combien d'associations, beaucoup, il y a des chiffres impressionnants, mais aussi ils passent un peu tourmentés, et puis il y a aussi de nouvelles formes d'associations qui se font sur les réseaux sociaux, sur les groupes WhatsApp. Donc tout ça, c'est poser question de la liberté de se regrouper. Et donc voilà, donc ce sera toute une semaine dans toutes les émissions, presque toutes les émissions de la grille d'Aligre FM. On mettra en valeur des associations qui, d'une manière ou d'une autre, ont une démarche particulière et puis qui méritent un peu un coup de chapeau une fois de temps en temps. Et même si sur Aligre, on parle beaucoup d'associations. Et effectivement, et puis oui, c'est le 125e anniversaire de la grand-mère association, la loi de 1901, du 1er juillet 1901, et qui mérite effectivement qu'on lui tire son chapeau et puis qu'on refasse un petit peu de rétro pour pouvoir voir l'avenir. Il faut un petit peu connaître son passé. Donc voilà, bon, en tout cas, je vous souhaite à tous une excellente semaine à l'écoute d'Aligre FM, bien évidemment. Et puis, on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci, à bientôt.
Asmar.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.